créer tous ensemble une histoire, une fiction sonore. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on va imaginer une histoire, et tout ça, en fait, on va l'imaginer ensemble pour ensuite que je puisse le recréer après. La première étape pour créer une histoire, c'est de connaître son univers. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des idées d'univers? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer le micro, et au moment où la personne a le micro, pourra répondre.
T'aimerais que ça se passe où, toi, ton
meilleur rêve,
Lénie?
Un univers... Moi, je voudrais que l'univers, il se passe dans une forêt. On peut entendre des feuilles qui s'envolent à cause du vent. Un ruisseau coulé. Des oiseaux.
Dans un monde qui existe seulement depuis quelques instants, une forêt dense et luxuriante s'éleva des abysses. Sous son ambiance calme et paisible se cache une menace qui grandit de jour en jour. Oui, Draco, chef des braconniers, il prend plaisir à traquer et tuer des loups en échange de quelques pièces d'or. L'Atelier des rêves, un programme créé par les enfants pour les enfants. Le cri de la forêt, une histoire imaginée par les enfants de l'école Saint-Exupéry.
Notre personnage principal, c'est le magicien protecteur d'animaux. Le magicien, il était tranquillement chez lui, qui était en train de dormir, et il a eu une vision de braconnier qui tuait des animaux. Donc il se réveille et il se prépare à aller dans la forêt.
Draco, le grand et jeune mage... c'est quoi son nom déjà?
Philippe André Albus.
Ah oui, Philippe André Albus, le jeune mage talentueux, part pour sa grande quête pour sauver ses amis les loups. Regardez-moi tous ces loups qui jonchent le sol. Ils vont nous rapporter un paquet d'or.
Draco et sa bande tuent des loups pour récupérer les peaux.
Allez les gars, on se dépêche. On a des peaux à revendre.
Le magicien voit que les braconniers veulent tuer des animaux.
Non ! Comment as-tu pu ? Oh non, voilà l'autre rat de la forêt. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Allez les gars, on se casse.
Si je reprends tout ce que vous venez de dire, on a Philippe-André Albus qui veut intervenir, donc il sort de chez lui et il va à la poursuite de Draco. Draco, il voit Philippe-André Albus et du coup, il commence à fuir. Est-ce que ça vous va à tous?
Oui.
Et après, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il faut qu'on avance dans l'histoire quand même. Ouais.
Philippe, il veut pas se bagarrer, donc il lui demande de faire la paix, de pas tuer les animaux, mais au lieu de les tuer, de les aider.
Et alors, qu'est-ce qu'il dit, Draco?
Bah, Draco, il se dispute, mais après, à la fin, il finit par dire oui.
Est-ce que ça vous va à tous?
Non.
Oui.
Alors,
non.
Est-ce...
Oui. Trop vite.
Et alors, est-ce que quelqu'un peut continuer?
Fuir. Prendre des vies contre de l'or, c'est ça que tu veux?
Mais tu me prends pour qui? C'est toi qui ne peux plus fuir. Tu es tombé dans mon piège.
Allez, tirez! C'est impossible! Pourquoi es-tu encore en vie?
Et au final... Est-ce qu'on peut essayer de faire... Quelqu'un peut dire juste la fin? Tu veux essayer?
Au final, Draco et ses compagnons arrêtent de braconner car ils s'avouent vaincus devant les pouvoirs de Philippe André Albus.
Ok, tu as gagné. Je me rends.
Jure-moi de laisser les animaux tranquilles.
Je laisserai la moitié de la forêt en vue, mais...
Non, Draco.
D'accord. Si monsieur Philippe André Hus l'a dit, je me plie.
Merci, Draco.
Et pour l'or...
Bah, tu trouves un travail, comme tout le monde.
Ah, bon, d'accord.
Et voilà comment se termine la quête de Philippe André Albus, mage protecteur de la forêt et grand ami des animaux. Draco passera le reste de sa vie...
Je suis pas sûr d'être payé pour cette histoire. Je pourrais te demander une petite pièce d'or. Un lingot?
Non.
Une pépite?
Bon, je peux finir? Draco passera le reste de sa vie à...
Après cette plongée dans le conte, je vous propose de vous plonger dans l'obscurité. Non, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de cauchemars cette fois, mais plutôt de rêveries, d'expériences sensorielles et de discussions profondes au milieu de la nuit, du noir, dans un lieu propice à l'imaginaire. Suivons Daniele dans une nuit au musée d'Ulysse Dubonnet. Bonne balade.
Bonjour Daniele, alors merci de m'accueillir déjà. Donc comme tu le sais aujourd'hui on va parler de ton métier, veilleur de nuit. Tu peux commencer par présenter et ensuite tu nous racontes un peu ton métier, ce que tu fais là-bas, voilà. On commence quand tu veux.
Je m'appelle Daniele, je suis agent d'intervention de nuit au musée du Louvre. Ça fait à peu près un an que je travaille dans le service de nuit. Et avant ça, j'ai travaillé dans d'autres musées, le musée de la Croix, et en faisant mes études en parallèle de littérature américaine. Le cœur du travail revient au fait qu'on doit être présent en cas d'accident, si quelque chose d'inattendu arrive. Et il y a les rondes de contrôle, il y en a plusieurs, au moins trois, mais c'est surtout les espaces muséographiques, là où effectivement il y a la raison d'être du musée lui-même. Toutes les œuvres qui sont certes sous alarme la nuit, mais on va vérifier quand même que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de fenêtre ouverte, qu'il n'y a pas de porte entrouverte, etc. Donc c'est vraiment une surveillance qu'on fait et qui est de l'ordre, je dirais, du sensoriel. C'est-à-dire que quand on fait la ronde, pour constater s'il y a un problème ou pas, on ne se base pas tout simplement sur la perception visuelle. C'est de l'ordre sensoriel dans le sens que tous nos sens sont activés. On arrive dans une salle, on constate qu'il y a une odeur particulière. Qu'il y a un bruit particulier qui n'est pas normal. On sent la chaleur parfois, ou si la salle est particulièrement froide ou trop humide. Quand on est à deux, la ronde est l'occasion effectivement pour parler avec la personne. On est là pour, certes, vérifier tous les points sensibles du musée, mais comme les rondes sont assez longues, en fait, ça prend parfois plus d'une heure, une heure et demie. Il faut vraiment imaginer qu'on traverse tout le musée à un pas d'homme, donc on n'est pas en train de courir, on vérifie. Et on parle, oui, on parle. Et ce qui est intéressant, la nuit, c'est qu'il y a quelque chose qui se dégage d'une espèce d'intimité avec la personne, puisque il faut s'imaginer, on est dans un environnement complètement sombre, plongé dans le noir. On a nos lampes de torches, nos petites lampes à la main. Donc c'est un éclairage assez particulier. Et j'ai l'impression parfois que cette obscurité, ça permet d'aller vers des discussions plus intimes, plus profondes, plus vraies, qu'on n'a pas dans la superficialité avec les agents de jour. Quand j'ai travaillé de jour, jamais on parlait des choses desquelles on parle la nuit avec certains collègues. Et ça, c'est assez sympa. Il y a le côté, effectivement, du travail lui-même, il y a le côté humain qui est non négligeable dans le travail des nuits. On peut parler effectivement de différents types de silence. On parlait des rondes techniques et des locaux techniques. Là, ce sont des salles qui sont parfois extrêmement bruyantes. Ça a un bruit parfois très désagréable. Le Louvre, la nuit, est un lieu complètement silencieux, mais non pas qu'il y a absence de son ou absence de bruit. Il y a des bruits, il y a des salles plus bruyantes que d'autres. Déjà, je suis convaincu que le silence n'existe pas. Déjà parce qu'il y a toi, comme élément qui marche à travers un musée, c'est toi qui vas dégager une certaine musique avec tes pas. Le pas sur le parquet, j'imagine en particulier la grande galerie. Donc il y a un grand parquet, une grande galerie, et tu entends tes pas avec l'écho qui se dégage. Il y a ton trousseau de clés. Moi, j'ai un petit mousqueton que je mets sur ma ceinture. Donc, à chaque pas aussi, tu entends le bruit des clés qui frappe contre ta jambe. Donc, le silence n'est pas parfait. Ce n'est pas un silence mortuaire. Mais c'est un silence quand même lié à l'absence de personne. C'est ça qui fait toute la différence avec le jour. Je sais pas, comme si la présence des gens dans les salles, rien que la présence, ça va altérer le contexte dans lequel les œuvres sont plongées. La nuit, t'es entouré d'œuvres d'art, t'es entouré de beauté, t'es entouré d'obscurité. La nuit est tout autour de toi. Et la seule chose vivante que tu as à part toi, c'est l'autre personne avec qui tu travailles. C'est quelque chose qui n'est pas tangible, tu ne peux pas le toucher. Tu sais qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées dans ce lieu. Tu sais qu'il y a eu plein d'histoires avant d'être musée. Le Louvre était un palais, il a eu 1000 fonctions différentes. Il a eu une histoire tellement hétéroclite et complexe que je pense, mais peut-être je me trompe, tout ça, ça affecte le rapport qu'on peut avoir aussi avec des personnes, tout ce qu'on peut dire entre nous. La nuit, j'examine les œuvres et j'examine les collègues. Bah, les œuvres, elles n'ont jamais terminé de nous raconter des choses. Mais les personnes aussi. Les personnes sont aussi des œuvres d'art très complexes, parfois très moches, parfois très belles, mais toujours surprenantes, c'est ça. Et on peut toujours s'attendre à quelque chose et penser qu'on connaît. Je pense à la fois une œuvre ou une personne, mais en fait non, tu peux toujours découvrir quelque chose de plus. Non pas que l'œuvre en soi a changé ou la personne a changé, mais peut-être toi-même tu as changé. Donc tu as changé ton regard sur certaines choses.
Et pour finir, nous allons continuer l'expérience de l'imaginaire et du sensoriel en voyageant dans le monde rêvé des profondeurs, en suivant André, un plongeur aveugle, et Marc, son accompagnateur, en entraînement. C'est une création sonore d'Alexis Dulaurier et Julie Malecourt qui se nomme Le plongeur aveugle.
Il était une fois une personne aveugle qui s'était inscrite à la piscine.
J'ai dû adapter mon itinéraire par rapport aux travaux, qui du coup est rallongé. Comme j'habite ici depuis longtemps, je connaissais la place Saint-Paul-en-Croix, mais j'ai vraiment fait tout pour éviter le maximum de travaux sur mon trajet, quoi. Ah. Et deux vendredis de rang, je rencontrais la même personne qui m'a aidé. Voilà.
Pendant 3 ou 4 séances, on lui demandait « Veux-tu faire de la plongée ?» La personne disait « Ça m'intéresse pas. Il n'y a rien à voir sous l'eau, je n'y vois pas, je suis aveugle. Je ne vois pas l'intérêt de la plongée. » Lors des séances de natation, il y avait un groupe de plongeurs et les responsables de la plongée me demandaient si la plongée m'intéresserait. Et je répondais à chaque fois que ça ne m'intéressait pas parce que j'y voyais rien et je pensais qu'avec la maladie que j'avais aux yeux, c'était une contre-indication pour en faire. Et puis, ils m'ont proposé plusieurs fois d'en faire. Je leur ai toujours dit non, jamais.
Oui, allô ? Allô ? Ouais, on est arrivé, hein, normalement. On est toujours en voiture, ouais, dans une voiture. Mais on est en train de se garer.
Un jour, un responsable lui a fait tester les palmes, masque et tuba. La personne aveugle a dit « C'est sympa, ça ». L'encadrant en face dit « Maintenant, tu vas essayer autre chose. »
Waouh ! Ouais. Ouais, bah, elle est froide. Waouh !
Lui apporte la bouteille de plongée et du coup le nageur aveugle va à nouveau sous l'eau.
Attention. Voilà.
Ok.
Un peu de travers. Hop. Voilà, t'as plus qu'à mettre le détendeur.
D'accord.
Alors, tu as 150, 160 bars.
D'accord.
Super.
Bon. Je mets les palmes, peut-être.
Mets les palmes, ouais. Je tiens la bouteille.
J'ai dû commencer la plongée, j'avais 30 ans, quoi.
Oh, t'es quand même un vieux plongeur. Hein,
mais il y en a qui commencent à 5 ans. Hein.
Bah, j'avais 44 ans quand j'ai commencé la plongée.
Il y avait deux clubs, ils étaient chacun à bout de la plage. Il y a un gars de l'autre club qui me connaissait, qui me dit, tiens, j'ai pas assez d'encadrants pour faire la sortie cette année parce qu'il y a des plongeurs de Andy-Brest et j'ai besoin d'un coup de main, est-ce que ça te dirait de venir? Et puis hop, tiens, mais c'est André. Et puis après, bah, le problème, c'est que une fois qu'on a mis le petit doigt dedans, il y a tout le bras qui y passe, puis le corps jusqu'aux pieds. En général, dans ce que je fais, il y a toujours quelque part une fibre de transmission, de pouvoir en faire profiter tout le monde, ou le plus de gens possible, donc ça amène à de l'encadrement, puis à de la formation.
Du coup, est-ce que je peux, en partant d'avant, est-ce que je peux partir assis ou faut que j'aille debout?
Écoute, on va se mettre debout.
Ça te fait rire. Attends.
Bah écoute, c'est ça. Vas-y encore. Ouais, c'est bon. Alors du coup, tu te mets un peu sur le bord, avance un tout petit peu, tu gardes tes talons sur le bord encore un peu.
Oh là là.
Je te tiens. Tu fais comme si tu regardais loin devant toi. Tu tiens ton masque, voilà. Et tu fais un grand pas en avant. Prends ton temps.
C'est toujours dur ça.
Prends ton temps. Tiens le masque. Hein.
C'est dur psychologiquement de faire un pas en avant.
Il n'y a rien devant toi. Ni personne. Juste un pas, t'as pas besoin de sauter. Hein. On a dit un pas en avant.
Ouais, je sais. J'ai pas, je vais refaire.
Ok, vas-y, remonte ta jambe. Je vais t'aider.
Ah, mais il n'y a rien à faire. Hein, qu'on peut pas.
Ah, c'est psychologique.
Ouais, ouais. C'est, je sais pas pourquoi. J'ai le peur qu'il y ait un obstacle alors qu'il n'y a rien. Ou j'ai l'impression que c'est. J'ai l'impression que c'est plus haut, que ça va être plus haut que prévu.
Viens un peu vers moi. En avant.
Une personne, en fonction de son handicap, on va la surveiller plus ou moins. Si ce sont des gros handicaps, on ne va pas la lâcher des yeux. Mais André, par exemple, on peut être côte à côte sans forcément se regarder tout le temps. Et là, on se fie au bruit des bulles, de sa respiration, effectivement.
Il me tient le bras, et quelquefois, il me lâche, mais s'il me lâche, il n'est pas très loin. Il est soit à droite ou à gauche, ou un petit peu derrière moi, mais la plupart du temps, je sais qu'il est là, parce que je sens le contact de sa main sur mon bras.
Du coup, on descend. Viens vers moi, un peu. Alors tu vas purger la bouée et en même temps en descendant tu feras attention à tes oreilles, d'accord? Pendant que tu équilibres. Alors on va refaire un exercice comme on avait fait à Carlet là. Je vais te faire le signe ça va pas. Et puis tu me sauves, tu me remontes. Tu seras à l'équilibre au fond, tu mets un peu d'air dedans, ça devrait suffire. Tu arriveras à redescendre là en plein eau?
Ouais.
Tu fais attention à tes oreilles, hein. Tu équilibres les oreilles.
Okay. Le son préféré, c'est quand je suis dans l'eau avec la bouteille. Ça fait j'aime bien ce son-là, quand je respire, quand j'entends les bulles. J'essaie de dire autour de moi que quand on ne voit pas sous la mer, il faut s'imaginer que l'on est dans une forêt recouverte d'eau. J'essaie d'imaginer. Parce qu'on me fait toucher des choses sous la mer, par exemple, les rochers,
les coquillages, les étoiles de mer, tout ça. C'est un peu piquant. Comme c'est en forme d'étoile, c'est facile à identifier. Une fois, on m'a mis un petit crabe là, sur ma combinaison. Il me faisait pas mal parce que la combinaison est assez épaisse. Même s'il n'y a rien à y voir, la plongée est agréable.
On a longtemps appelé la mer le monde du silence. C'est une aberration totale. Il y a énormément de bruit sous l'eau.
Ah oui, oui.
Déjà parce que l'eau conduit les sons beaucoup mieux que dans l'air. Et puis, il y a énormément d'animaux qui font plein de sons. Même les algues craquent. Mais tous les petits animaux, en se déplaçant, en communiquant, font plein de bruit. Quand on est dans l'eau et qu'on ressent un chant de baleine, c'est une vibration, parce que le son, c'est une vibration, qui nous secoue quoi, des pieds à la tête. En plus d'être beau et harmonieux, c'est une vibration qui est ressentie dans le corps quand on est dans l'eau. Ça, c'est incroyable.
Ah, tu vois, pas de précipitation pour la remontée.
Oui.
Est-ce que tu as remarqué que je t'ai pas gonflé ta bouteille, ta stab?
Ben, je sais, il n'y a pas d'air. Donc,
bah oui, il n'y a pas d'air, donc tu peux pas la gonfler.
C'est ça.
Comme je vous dis souvent, c'est comme si un enfant avant, il dit qu'il n'aime pas un plat, puis dès qu'on lui fait goûter, il adore.
Voilà,
fin de la séance.
Le nageur aveugle apprécie tellement sa plongée qu'il a fini par dire « La semaine prochaine, je continue ». Depuis ce temps-là, la personne aveugle est devenue un plongeur aveugle.
Le plongeur aveugle, Alexis Dulaurier, Julie Malcourt. Merci pour votre venue dans ce second salon du rêve. J'espère que ces deux émissions vous ont plu et qu'aujourd'hui, vous n'avez qu'une hâte, celle de laisser vos rêves vous guider et peut-être changer la réalité. C'était une production de la promotion 10 audiovisuel 2024-2025 de l'école INA Campus. Vous avez pu écouter les œuvres de 8 étudiants qui étaient Simon Pack, Franck Diued, Matteo Matoussi, Jérémy Chevillard, Ulysse Dubonnet, Marie-Lou Bonnefond, Alexis Dulaurier et Julie Malcourt. Ces productions ont été créées à différents moments de l'année dans le cadre de festivals ou rendus de fin de diplôme. Un grand merci à Marie Guérin et à Arnaud Gosselin pour leur accompagnement précieux dans cette formation.